J'espère que vous allez bien.
Par la grâce de Dieu, amen.
Je vous propose qu'on commence par la prière, avant de poursuivre par le message. Amen. Seigneur, merci voilà, pour ta grâce, pour ta faveur, Seigneur, qui est sur nos vies, pour ton esprit, Seigneur, qui nous enseigne, oui, qui nous conduit, Seigneur, vraiment toujours plus proche à ta ressemblance. Merci voilà, d'utiliser les paroles qui sortiront de ma bouche, Seigneur, et de me permettre humblement de pouvoir partager ce que tu as mis sur mon cœur. Je te prie vraiment de garder nos cœurs, nos pensées, Seigneur, en toi, afin d'écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire ce matin, parce que tu nous parles. Seigneur, tu nous as déjà parlé, parce que tu parles tantôt par... d'une façon, tantôt d'une autre, que ce soit au travers des chants, au travers des prières inspirées. On te remercie, Seigneur. Oui, garde nos cœurs et nos pensées, Seigneur, alignés avec toi. Amen. Amen. Voilà, comme je suis content voilà, de pouvoir partager ce temps de message ce matin à l'église. Alors ça sent, même si on n'est pas encore tous là, hein, ça sent quand même la rentrée. On est déjà en septembre la semaine prochaine. Et qui dit rentrée, voilà, dit aussi souvent nouvelle étape, nouvelle saison dans nos vies. Il n'y a pas que pour les enfants hein, qui rentrent dans de nouvelles classes et qui rencontrent de nouveaux professeurs, mais pour nous aussi, en tant qu'adultes, voilà, on rentre dans une période où on va devoir se replonger, vous et moi, après les vacances, en tout cas pour ceux qui ont eu. Se replonger dans nos différentes activités, y mettre toute notre énergie qu'il nous faudra y mettre, hein, et voilà, nous adapter aussi aux changements qui vont sans doute intervenir. Et du coup, en cette période si particulière, je crois que vous et moi, on a besoin d'écouter justement, d'autant plus, on a toujours besoin d'écouter ce que Dieu nous dit, mais d'autant plus dans ces périodes, afin de mieux rentrer dans ses plans pour nous. Et en parlant de renouveau et de reprise d'activité, j'avais à cœur de prêcher ce matin sur le livre de Zacharie. Car je trouve que le contexte s'y prête bien, hein, ce prophète souvent pas très bien connu par beaucoup de chrétiens, et qui est pourtant d'un enseignement très riche. Il est le plus grand des petits prophètes de l'Ancien Testament. Je parle là en taille de livre, hein, car le livre compte pas moins de 14 chapitres. À noter que Zacharie est après, hein, petite anecdote, après Ésaïe, le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. On trouve des mentions de ses écrits à peu près 70 fois, rien que cela, dans le Nouveau Testament. Hein, ce qui montre voilà, que l'importance aussi de chercher à comprendre son message. Je vous propose donc de lire ce matin les six premiers versets qui introduisent le livre de Zacharie, et on va lire ensemble. Voici ce que dit le texte. Zacharie chapitre 1, versets 1 à 6. Au huitième mois de la deuxième année du règne de Darius, l'Éternel adressa la parole à Zacharie, le prophète, fils de Barachi et petit-fils d'Ido en ces termes. L'Éternel s'est violemment irrité contre vos pères, dit à ce peuple, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à vous, a dit le Seigneur des armées célestes. Ne faites pas comme vos ancêtres, que les prophètes d'autrefois ont exhorté en leur disant « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Abandonnez vos mauvaises conduites et renoncez à vos mauvaises actions. » Mais vos ancêtres n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles. L'Éternel le déclare. Vos ancêtres, où sont-ils à présent? Et les prophètes, sont-ils toujours en vie? Or mes paroles et mes lois, que j'avais ordonnées à mes serviteurs, les prophètes de leur transmettre, n'ont pas atteint vos pères. Alors ils ont changé d'attitude et ils ont reconnu. Oui, le Seigneur des armées célestes nous a traités comme il avait résolu de le faire, comme le méritaient notre conduite et nos actes. Amen. Ah, vous pouvez nous dire, mais qu'est-ce qu'il va nous dire comme message de rentrée, hein ? Un tel texte. Mais vous allez voir. Restez bien avec moi, vous allez voir où je veux en venir. Parce qu'on va quelque part ce matin, ensemble. Alors, il faut savoir pour commencer que au moment où le prophète Ésaïe écrit ses premiers versets, il est encore très jeune. On dispose de quelques informations le concernant. On sait qu'il est né à Babylone pendant l'exil, dans une famille de Lévites, et que par conséquent, il est dans sa lignée, on est prêtre de génération en génération. Son grand-père se nomme Iddo, on voit ça au tout début, au verset 1. Et c'est ce que nous dit ce texte. Il était visiblement considéré comme le chef des prêtres au retour de l'exil à Jérusalem. Autre information, et qui a son importance, Zacharie est un prophète contemporain du prophète Agé, et leurs deux ministères, retenez bien ceci, se chevauchent. En plus d'être prêtre, comme vous l'aurez compris, Zacharie a un appel de prophète sur sa vie. Hein ? On voit ça au verset 1. L'Éternel adressa la parole à Zacharie le prophète. Alors maintenant, pour mieux saisir le sens de ce passage, il est important de connaître le contexte un peu plus en détail. Alors comme je le disais, hein, il est contemporain du prophète Agé. En 548 avant Jésus-Christ, le roi perse avait autorisé les exilés à retourner chez eux. Et donc à ce moment-là, près de 50 000 juifs quittent Babylone. Et ils décident immédiatement de retourner sur leur terre pour aller reconstruire le temple et la ville. Sauf que voilà, le beau zèle qu'ils ont eu s'est vite refroidi devant les difficultés et devant l'opposition des Samaritains. Ajoutez à cela qu'il y a eu un relâchement spirituel qui a conduit petit à petit le peuple à se détourner de cette priorité qui était de construire, reconstruire la ville et le temple pour finalement se dire, bah écoutez, maintenant qu'on est chez nous, on va se construire des belles maisons, on va bien s'installer, et puis bon, ben, l'œuvre de Dieu, ça attendra pour plus tard. Il y a donc eu à ce moment-là une forme d'indifférence générale qui s'est installée parmi le peuple. Et 16 ans plus tard, Dieu a donc confié à Zacharie et à Agé la tâche de susciter à nouveau un intérêt pour les choses de Dieu, en leur rappelant les justes priorités. Un peu comme Christ qui invite sur le sermon de la montagne ses auditeurs à rechercher premièrement les choses du royaume. Alors si la prédication d'Agé avait pour but de créer un électrochoc et même un réveil spirituel, la mission de Zacharie, elle a un peu d'entretenir cette flamme. Son message, il est un peu plus positif, avec un fort accent mis sur l'espoir qu'un jour le Messie apportera en établissant son royaume sur terre. Et de ce fait, il encourage le peuple, malgré la menace des ennemis, à s'attacher aux promesses de Dieu. Hein, il faut savoir qu'après les prophéties de Zacharie, hein, il y aura juste Malachie 30 ans plus tard, et après il y aura un long silence de 400 ans, jusqu'à ce que Jean-Baptiste revienne. Et donc Zacharie, effectivement, il prépare les cœurs pour Christ qui doit revenir, qui doit venir. Une fois que ça s'est dit, maintenant qu'on a un peu le contexte général, pour en revenir au verset qui nous intéresse plus particulièrement ce matin, on voit qu'ils ont pour but, comme on a pu le voir, de donner aux contemporains de Zacharie deux avertissements. Un avertissement, pardon, à ne surtout pas répéter les erreurs de leur père. Mais aussi un appel. Un appel de la part de Dieu à revenir à lui. Ces deux éléments, avertissement d'un côté et appel à revenir à Dieu, C'est ce qui va nous intéresser ce matin. Et on va essayer d'en tirer des enseignements à la fois pour nos vies personnelles, mais aussi pour notre Église, qui reprend un peu sa nouvelle année. Nouvelle année d'Église. Généralement, les Églises, on ne se base pas sur le calendrier civil, mais aussi plutôt le calendrier scolaire. Premièrement, l'avertissement. Le souvenir des erreurs passées. Alors j'imagine que la majorité d'entre vous connaissez peut-être bien cette phrase, on dit « tel père, tel fils hein ». Souvent quand ma mère regarde notre petit garçon et qu'il fait quelque chose, un de ses réflexes c'est de dire « il est comme son père hein ». Et qu'il veut quelque chose tout de suite, « ah ben il tient ça de son papa ». Or là, justement, dans sa prédication, Zacharie demande à ses compatriotes à justement ne pas ressembler à leurs ancêtres. On voit ça au verset 4. Hein, leur père avait refusé d'écouter les mises en garde des prophètes, notamment ceux de Jérémie et d'Ésaïe. Et finalement, cette promesse d'exil, hein, qui leur avait été donnée comme châtiment à cause de leur infidélité, hein, c'est pas venu comme ça par hasard, ben elle s'est réalisée. D'ailleurs, si la génération qui a été déportée à Babylone n'est plus de ce monde, comme les prophètes qui les ont enseignés, qui les ont mis en garde, les conséquences de leurs actes, eux, en revanche, sont toujours bien là au moment où Zacharie écrit ça. C'est ce que nous faisons n'a pas que des conséquences sur nos propres vies. Les choix que nous prenons. On vit dans une société où c'est moi d'abord. Oui. Tes choix, ils ont un impact sur ceux d'après. Et toi, tu n'es finalement qu'un maillon de l'histoire qui s'insère quelque part. Donc faisons attention à cela. Dieu avait promis l'exil à la génération passée, et sa parole, elle demeure toujours. Notez une chose. C'est que je vais essayer de revenir sur le texte. Dès le départ, le livre de Zacharie ne cache pas la situation de son peuple, qui est placé sous l'autorité d'un roi perse, Darius. Verset 1, au 8e mois de la 2e année du règne de Darius. Dit comme ça, ça paraît... On ne se rend peut-être pas compte de ce que Zacharie est en train d'écrire. On se dit, ah bah, il nous raconte un peu l'histoire. Non. Je crois personnellement que c'est plus profond que ça. Je crois que Zacharie, à la différence, se différencie des anciens prophètes. Les anciens prophètes, quand vous lisez les autres livres de l'Ancien Testament, des autres prophètes, ils datent toujours leurs livres, leurs messages, d'après un roi de Juda ou d'Israël, d'un descendant de David. Lui, Zacharie, il précise... J'écris le 8e mois de la 2e année du règne du roi Darius, un étranger, un païen, un incirconcis. Parce que, entre guillemets, eh ben mon peuple est sous le joug des nations. Je me suis dit, quand j'ai lu ça, je me suis dit, finalement, il aurait pu ne pas le mettre, ça. Et aller directement, l'Éternel adressa la parole à Zacharie. Mais non. Il veut se rappeler, il veut que les gens se rappellent que la situation dans laquelle ils sont, ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas tombé des doigts comme ça. Non. On est en train de vivre un temps d'épreuve, d'humiliation. Imaginez-vous pour un juif de l'époque, être gouverné et avoir comme référent un roi païen, un incirconcis, l'humiliation que c'était. Et finalement, il le rappelle et il veut que ça reste gravé dans l'histoire. Ne serait-ce que par cette petite précision qui paraît anodine. Il veut qu'à tout jamais, son peuple se rappelle de ce drame qu'ils ont vécu. Et parce que le traumatisme est réel et qu'ils sont sans doute encore présents dans l'esprit de beaucoup à son époque, cette nouvelle génération, elle est invitée de la part de Dieu à considérer le mauvais chemin pris par le passé et les mauvaises décisions qui ont amené justement cette situation-là. Vous savez, 500 ans plus tard, Paul, il utilise un peu le même mécanisme, à peu près, avec l'église de Corinthe. Il leur dit, en 1 Corinthiens 10, il leur enseigne à se souvenir des erreurs qu'Israël a pu commettre dans le passé et à ne pas tomber dans le même piège. En effet, le souvenir des erreurs que certains ont dans la parole de Dieu pu commettre nous aide, et là pour nous guider. Et c'est essentiel, frères et sœurs, que vous et moi, on apprenne aussi de nos erreurs et des mauvaises décisions qu'on a pu prendre dans le passé. Et j'ai même envie de dire que c'est là une clé spirituelle très importante dans notre marche avec Dieu. Hein, refuser de comprendre ça, être comme ces gens qui sont dans le déni parfois et qui ne veulent pas... Ah non, laisse, oh, ne parle pas de ça, tourne la page, je ne veux pas en entendre parler. Oui. Crois-moi, ça ne t'aidera pas à pas recommencer. C'est risqué, comme Caïn, après son sacrifice, hein, de refuser la correction de Dieu. De vouloir par la suite, ensuite, passer le reste de nos vies loin du Seigneur. Parce que justement, or, on a mis un voile sur des erreurs passées. Alors sans évidemment nous culpabiliser ou autre, mais c'est important d'avoir cette humilité-là aussi, de savoir reconnaître les décisions qu'on a pu prendre et qui n'étaient pas inspirées par Dieu. Maintenant, pour nous, cette fois-ci, en tant qu'Église de Créteil, alors évidemment, vous me direz, contrairement aux Juifs exilés, on n'est plus sous la loi, on n'a pas non plus abandonné Dieu pour adorer des idoles, et le Seigneur ne nous a pas rejetés et mis en exil dans un pays éloigné sans pouvoir nous rassembler, ok ? Toutefois, je crois ce matin qu'on est nous aussi invités d'une certaine façon, dans cette saison qui commence, à faire humblement et sincèrement le bilan de tout le chemin parcouru. Et d'être capable de se dire, ok, là, ça a fonctionné, et là, telle ou telle chose, ben, elle a été moins. Considérer à ce qui n'a pas été... au mieux et en tirer des leçons. Maintenant, attention toutefois à ne pas, en revanche, nous décourager, à baisser les bras avant même d'avoir commencé. Ni comme faire, alors je ne sais pas vous, mais moi j'en ai déjà rencontré, comme certains chrétiens qui sont toujours là pour pointer du doigt ce qui ne va pas. Alors même si, je le dis avec amour, mais avec ce genre de personne, on n'ira nulle part, on n'avancera jamais. Parce qu'un coup, c'est la louange qui n'était pas loin. Le dimanche d'après, c'était le café. Agnès, elle l'a fait trop chaud. Ou les petits gâteaux n'étaient pas à mon goût. Et l'autre semaine d'après, comme il n'y avait rien à dire, c'était les habits du pasteur. Hein, sans tomber évidemment dans ce genre de cas, et quand bien même, ne prêtons pas trop attention à ce genre de discours. Maintenant, tout en regardant et en gardant à l'esprit qu'il nous faut être reconnaissant à Dieu pour tout ce qui a été fait jusqu'à présent, je crois profondément que Dieu veut que son Église ait une sagesse spirituelle et qu'elle sache aussi analyser les choses pour aller de l'avant. Tout en prenant compte les expériences passées et à remanier ce qui doit l'être. Même si ça doit parfois venir un peu bousculer certaines de nos habitudes. Car sans ça, les amis, on risquerait peut-être, vous et moi, de passer à côté de grandes choses que Dieu a prévues pour nous. Un peu comme la génération avant l'exil qui n'a pas su répondre à l'avertissement qui leur a été adressé et changé. Chez eux, et bien ce qui devait l'être. À la différence de ces Juifs exilés, soyons pour la génération qui vient d'après, frères et sœurs, des modèles inspirants, de fidélité envers Dieu. Apprenons à la génération qui vient après nous de suivre le Seigneur, d'être fidèles. Apprenons-leur à suivre Dieu, mais pas par nos paroles, aussi par nos actes et notre fidélité. Parce que je crois vraiment qu'à un moment donné, vous savez, ils seront capables de nous dire oui. Tu parles. Qu'est-ce que tu fais ? Apprenons-leur, comme le dit Paul en Galates 6, que Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui et que chacun reçoit ce qu'il a semé. Après avoir vu l'avertissement donné au peuple, passons maintenant à l'appel qui lui est adressé. Parce que comme on l'a vu, et à la fois c'est un avertissement, mais un appel. Appel à revenir à Dieu. C'est ce que Dieu dit d'emblée au verset 2. Je vais le remettre. Au verset 2, on peut le voir. Revenez à moi. L'Éternel, le Seigneur des armées, en d'autres mots, celui qui est tout puissant, celui qui est souverain sur tout l'univers, l'univers nous demande de revenir à lui. En nous faisant cette promesse, oui, mais si vous revenez à moi, moi je reviendrai à vous. Alors même si son livre a pour but d'encourager, de consoler le peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec notamment cette perspective que le Messie un jour va venir, la première prédication de Zacharie, elle commence par un appel à un retour à Dieu. Un message que certains pourraient qualifier de simple et de très court, mais tellement essentiel. Si le peuple veut vivre réellement l'ère messianique promise dans les visions que Zacharie va avoir, ils doivent d'abord revenir obligatoirement à Dieu. Parce que n'oublions jamais ceci, un retour à Dieu est toujours, assurément, la condition préalable d'une bénédiction spirituelle. Je répète. Un retour à Dieu est toujours la condition sine qua non à une bénédiction spirituelle. Il n'y a pas de bénédiction spirituelle sans retour à Dieu. Et dans notre cas, soyons honnêtes, les vacances d'été sont très souvent des temps où le risque de relâchement spirituel, il est là, il est présent. On a bien mangé. On a bien profité de bons moments avec la famille, on s'est amusé, on s'est reposé. Ok, c'est très important et merci Seigneur, on en a tous besoin. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Cependant, attention. Attention tout de même que durant ces moments-là, en quelque sorte, on ne mette pas Dieu au placard. Et comme hélas, personne n'est immunisé contre ça, si c'est notre cas, si ça a été votre cas, ne tardez pas à revenir. Ne tardez pas à reprendre des bonnes habitudes, comme on dit. Maintenant, je vais vous faire une petite confidence. Ce qui m'a le plus, moi, personnellement, encouragé dans ce message, et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps au début pour expliquer un peu les choses, et vous allez voir pourquoi, n'est pas forcément, bien que c'est la parole de Dieu évidemment, n'est pas plus le contenu, mais c'est plutôt le moment auquel Zacharie écrit ce passage. Et vous allez voir où je m'en viens. Donc restez bien avec moi, restez bien éveillés. J'ai besoin de toute votre attention. Comme je l'ai précisé, et j'ai mis l'accent dessus, le ministère de Zacharie est relativement proche de celui de Agé. Merci. Merci Eric. En réalité, les deux ont eu un ministère à la même époque. Et vous allez voir. Écoutez bien ça. Lorsque Zacharie commence à écrire son premier message, ça fait à peu près 2 à 3 mois que le peuple, suite à la prédication d'Agé, s'est mis au boulot. Que le chantier a repris. On estime à peu près qu'il y a 2-3 mois. Donc Agé arrive, il prêche, il dit « Allez hop, on se remet au travail. » Le peuple se remet au travail, il est actif. Et 2-3 mois plus tard, à peu près, Zacharie a ce message de la part de Dieu. Et là, je me suis dit, il y a quand même un paradoxe. Sur le papier, ils sont actifs pour Dieu. Ils ont déjà fait leur rentrée d'église depuis 2 mois. Ils ont sans doute mis beaucoup d'énergie à l'ouvrage, déjà. Vu de l'extérieur, on aurait pu dire, mais cette assemblée-là, oh, ils ont du zèle, de vrais bons élèves. 2 mois qui charbonnent, 2 mois que le prophète âgé leur a parlé et ils se sont mis au travail. Sauf que 2 mois plus tard, qu'est-ce que Zacharie vient leur dire ? Il leur dit, revenez à moi. C'est là tout le paradoxe. En réalité, même s'ils se sont mis au travail, leur cœur, il est loin de Dieu. 2 mois. 2 mois que la rentrée, elle a déjà commencé. Aux yeux de Dieu, ce type d'engagement, il est clairement incomplet. Dieu ne peut pas se contenter de ça. Car ce que Dieu veut par-dessus tout, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas une église qui fonctionne comme des employés, qui fonctionne comme des bénévoles d'une association. Dieu n'est pas un PDG ou un directeur de RH. Non. Dieu, ce qu'il recherche par-dessus tout, et nous le dit dans sa parole en 2 Chroniques 16, verset 9, « L'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur lui est attaché. » Sans réserve. Le Seigneur, frères et sœurs, il s'intéresse à notre cœur. Et certainement pas à ce qu'on a décidé d'accomplir pour lui. Quand je me suis dit ça, j'ai compris ce message-là et le contexte, la situation dans laquelle il le disait, ce message, il a pris d'autant plus de sens pour moi. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte quand on lit ces versets-là. Et peut-être au départ, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter comme message de rentrée en nous disant ça ? L'exemple de Marthe et Marie, que vous connaissez sans doute bel et bien, pour la plupart d'entre vous, est aussi un bel exemple. Pendant que Marie se démène pour être une bonne hôte de maison et être au petit soin avec Jésus, sa sœur Marie, elle est au pied du maître. Elle écoute sa parole. Je vais vous dire, je suis convaincu que dans l'histoire de Marthe et Marie, les deux sœurs aiment Jésus. Les deux sont avec Lazare, leur frère, des amis proches de Jésus. Et je suis vraiment convaincu que les deux aiment le Seigneur. On ne voit nulle part dans les évangiles que Marthe n'aime pas Jésus. Ou que Jésus lui fasse un quelconque reproche comme il a pu parfois le faire à d'autres. Mais il y a une chose qui les différencie. C'est que dans ce passage-là, dans Luc, c'est que celle qui a choisi la bonne part, c'est Marie. Alors non pas qu'il ne faut pas servir, qu'on s'entende bien. Et pas dire, oui, ah bah, non, je ne m'engage pas parce que, tu te rappelles, le 30 septembre, tu avais dit que, non, hein, c'est filmé. Hein. Comprenez bien ce que je veux dire, frère et ça. Ce que je veux que nous comprenions bien ce matin, c'est qu'en tant qu'Église, faisons attention à ne pas faire passer nos différentes activités, aussi honorables soient-elles, avant Jésus lui-même. Alors que je m'apprête bientôt à d'arriver à la fin de mon message, je voudrais rappeler que l'activisme dans lequel est tombée Marthe, a su et malheureusement tombée Marthe, et dans lequel se trouvent aussi les contemporains de Zacharie, c'est un danger pour n'importe quelle église. La nôtre inclue. Et il nous faut vraiment prendre ça au sérieux. Vous savez, souvent quand on rentre dans ce genre d'état, on ne s'en rend peut-être pas même compte nous-mêmes. Je me dis peut-être qu'à l'époque de Zacharie, peut-être que certains se disaient « Mais on est en train de faire quelque chose pour l'Éternel. Regardez, Ça fait 3 mois qu'on s'y est mis. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. En réalité, il n'y a pas de profondeur. En réalité, il n'y a rien. En réalité, Dieu leur demande de revenir à lui. En réalité, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils sont à côté de la plaque. Et dans le cas de l'activisme dans l'Église, cet état s'installe progressivement. Et le problème, c'est que vu de l'extérieur, on a l'impression que l'Église, elle est en mouvement. Elle est occupée pour les choses de Dieu. Et donc, si elle est occupée pour les choses de Dieu, c'est que bah, sa santé spirituelle, elle va bien. Ah ben, bah, je vais à l'Église tous les dimanches. Bah ça va. Oui, d'accord. Il y a plein de gens qui vont à l'Église tous les dimanches. Dieu sait l'état de nos cœurs. Ni vous ni moi, on peut lui cacher quoi que ce soit. Alors certes, ça ne se voit pas tout de suite. Mais Dieu lui le voit immédiatement. C'est pourquoi vous et moi, on est appelés à sonder régulièrement nos cœurs. Je le crois. Pour savoir si nos motivations sont toujours centrées sur Christ. Ou si notre dévouement... Et pas juste parce que ça nous fait du bien personnellement. Parce que ça nous valorise aussi aux yeux des autres. Un célèbre théologien, John MacArthur, dit ceci: des priorités mal placées finissent tôt ou tard par nous faire perdre la joie de servir le Seigneur. Pour en revenir aux Juifs du temps de Zacharie, l'œuvre de Dieu, elle doit se poursuivre. Ça doit forcément avancer. On ne va pas attendre des fois que, bon, bah, que toutes les situations, toutes les planètes sont alignées pour qu'on commence quelque chose. Non. L'œuvre de Dieu, elle doit avancer. Mais malgré le fait qu'elle doit avancer, maintenant, Dieu nous appelle à le faire dans un esprit nouveau. Un cœur disposer. Nos efforts, quel que soit ce qu'on fait pour le Seigneur, ne peuvent être le fruit que d'un amour pour lui. Alors que nous entamons une nouvelle saison dans la vie de notre Église, vous vous en doutez, mon désir, c'est que durant cette nouvelle année, ce soit une année pour nous qui soit durant laquelle Christ soit au centre de tout ce que vous et moi, on peut faire, que ce soit le dimanche, que ce soit les autres jours de la semaine, quel que soit ce qu'on entreprend pour le Seigneur, même dans notre travail. Non, je ne veux pas donner juste l'image d'être un chrétien, un bon chrétien, mais non, ce que je veux faire, c'est parce que j'aime le Seigneur, eh bien... apporter ce témoignage aux autres. Attention de, justement, de ne pas tomber dans le piège de faire quelque chose pour Jésus sans Jésus. Parce qu'à ce moment-là, ce message que Zacharie a dit sera aussi le nôtre. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Désolé d'avoir été un peu long, avant d'en arriver au vif du sujet. Mais pour comprendre ce message, il était important de pouvoir m'attarder un peu plus, pour que vous compreniez là où je voulais aller et nous amener ce matin. Voilà, ne faisons pas des choses pour Jésus sans Jésus. Sinon, ça n'a aucun sens. Alors, c'est un jour, un de mes anciens mentors me disait, tu sais, Chéti, si tu veux marcher avec le Seigneur, sans le Seigneur à côté de toi, en réalité, tu es juste quelqu'un qui se balade dans la rue. Donc bon, que ce soit le cas pour l'Église. Amen. Amen. Vous voulez bien qu'on prenne un temps pour prier? Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui est toujours riche et qui nous... Voilà. Nous permet, Seigneur, d'être d'être enseigné, de comprendre des choses sur toi, de comprendre ta volonté pour nous. Et merci parce que, oui, effectivement, ces exemples qu'on voit dans la parole de Dieu sont aussi des exemples qui nous invitent à ne pas faire la même chose. Et Seigneur, qu'on puisse tous comprendre que oui, il faut se lever pour le Seigneur. Oui, on est appelés tous à ne pas être des consommateurs le dimanche, mais à prendre part, Seigneur, au service. Parce que servir l'Église, c'est aussi te servir toi. Mais cependant, à côté de ça, de bien comprendre que ben, ça ne peut pas être fait sans un amour réel pour toi. Sans le faire vraiment avec un cœur disposé, Seigneur. Tout ce qu'on fait, Seigneur, dans nos vies, et qui ont pour objectif de te glorifier, de te faire connaître, de te servir, si elles ne sont pas faites effectivement avec des dispositions de cœur bonnes et avoir cette conscience que voilà, c'est d'abord avant tout toi au centre de nos vies, eh ben, on est à côté de ta volonté, Seigneur. Et pardon parce que on a pu peut-être, les uns et les autres, par moments tomber dans ce piège, moi le premier, et aide-nous à comprendre que d'abord et avant tout, Seigneur, c'est toujours nos cœurs que tu veux, plus que nos efforts. Et on veut te remercier pour ça, que cette nouvelle rentrée soit une entrée où, effectivement, on fasse toutes les choses pour toi, avec toi, en ayant conscience de cela, Père. Au nom de Jésus, amen.